Vous écoutez, on lit pour vous.
Des investissements massifs réclamés pour réduire la maladie. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 4 mars 2025 dans Le Devoir. Québec doit investir massivement pour réduire les maladies, estime une coalition de 57 associations. Elle suggère notamment à l'État, pour y parvenir, d'imposer une taxe sur les boissons sucrées, selon un rapport obtenu par Le Devoir. Celui-ci sera présenté lors de consultations sur la création d'un plan national de prévention en santé. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a lancé les invitations aux différents groupes qui s'exprimeront dans quelques semaines dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie en prévention au Québec. Ces rencontres seront privées, mais il y aura des consultations publiques dans un second temps. Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, estime que ce plan transformera en profondeur le système de santé. La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie rassemble, entre autres, l'Association pour la santé publique du Québec, ASPQ, Diabète Québec et la Société canadienne du cancer. Lors des consultations, elle présentera un plan d'une quinzaine de recommandations. Celle-ci s'articule autour de quatre axes. Réinvestir massivement, miser sur les données, gouverner la santé et non la maladie, et innover en prévention et en promotion de la santé. À l'heure actuelle, environ 1,5% de l'enveloppe budgétaire de la santé, soit 1 milliard de dollars, est réservée à la santé publique. Ce taux devrait être rehaussé à 5% afin de permettre à la prévention de déployer son plein potentiel, affirme en entrevue Thomas Bastien, directeur général de l'ASPQ. La coalition propose donc au gouvernement de François Legault, entre autres, d'imposer une taxe de 20 sous le litre sur les boissons contenant du sucre ajouté ou des édulcorants, comme les thés glacés, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes. Cela permettrait de générer des profits annuels d'au moins 50 millions de dollars, souligne Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, chargée de dossiers et nutritionniste à l'ASPQ. Ces revenus pourraient ensuite servir à la mise sur pied d'initiatives de prévention des maladies, telles qu'un programme de repas sain et gratuit dans les écoles. La place démesurée des boissons sucrées. Les boissons contenant du sucre ajouté occupent une place démesurée dans notre alimentation, soutient Mme Rossier-Bisaillon. Elles sont clairement associées à plusieurs problèmes de santé comme le développement de caries, le diabète de type 2 et les maladies du cœur, relève-t-elle. L'imposition d'une taxe pour diminuer la consommation de boissons sucrées a déjà fait ses preuves à différents endroits dans le monde, comme en Hongrie, au Royaume-Uni et en France, indique Antoine Genet-Grégoire, professeur au département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Pour être pleinement efficace, cette taxe doit toutefois être intégrée dans le prix affiché que voient les consommateurs, soulève-t-il. Il faut que ce soit évident que ce produit-là est rendu plus cher que celui d'à côté, souligne-t-il. Appelée à réagir, l'Association canadienne des boissons dit s'être engagée à aider la population à réduire sa consommation de sucre par l'éducation, l'innovation et le choix des consommateurs, et non par une taxe. Grâce à différentes initiatives, les options faibles en calories ou sans calories dépassent désormais les boissons entièrement sucrées, ajoute-t-elle. Mieux connaître la santé. La coalition estime également que les Québécois doivent avoir de meilleures connaissances en santé. Afin de permettre à la population d'être mieux informée en la matière, elle propose que de nouveaux indicateurs soient ajoutés au tableau de bord, performance du réseau de la santé et des services sociaux. On trouve actuellement dans ce tableau plusieurs onglets fournissant des données, dont ceux intitulés « Première ligne »,« Services médicaux spécialisés », santé publique et prévention. L'un des indicateurs indisponibles pour l'instant et qui est pourtant très demandé par la population est l'espérance de vie en santé, note Thomas Bastien. Il s'agit du nombre d'années qu'une personne devrait vivre en bonne santé. En ce moment, il existe aussi peu d'informations à propos de la pertinence d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour améliorer la prévention en santé, selon la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie. Elle suggère donc qu'on mette sur pied un chantier pour se pencher sur la question. Des chercheurs, des professionnels en santé publique et des décideurs pourraient y prendre part. Appelé à réagir au sujet du plan proposé par la coalition, le ministère de la Santé et des Services sociaux répond qu'il n'émettra aucun commentaire spécifique sur chacune des recommandations des différents partenaires invités aux consultations. Toutes seront considérées dans les réflexions entourant l'élaboration de la stratégie, précise-t-il. C'était « Des investissements massifs réclamés pour réduire la maladie », un texte de Florence Morin-Martel paru le 4 mars 2025 dans Le Devoir.
Habille-toi donc. Un texte de Marie-France Bazot paru le 11 mars 2025 dans La Presse. Lorsque Donald Trump a accueilli le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, à la sortie de la voiture qui le conduisait à la Maison-Blanche le 28 février, il a lancé, sur un ton à la fois taquin et passif-agressif, « Oh, vous êtes bien habillé aujourd'hui !» Plus tard, dans le bureau ovale, l'entretien entre les deux hommes a viré à la catastrophe. C'était, de l'avis de certains, un guet-apens auquel J.D. Vance et Trump avaient convié l'Ukrainien. Lorsque le dialogue fut rompu et la rage palpable, une étrange période de questions débuta. Un influenceur de droite a posé la première question. « Pourquoi refusez-vous de porter un costume? En possédez-vous un, au moins? » À la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Alors qu'on vient d'évoquer la Troisième Guerre mondiale, que les bombes continuent de pleuvoir sur l'Ukraine. Nous allons donc parler vêtements, guenilles, mode et politique, évidemment. Finalement, Zelensky a répliqué à l'agressif influenceur qu'il porterait un complet une fois la guerre terminée. Peut-être un costume comme le vôtre. Peut-être quelque chose de mieux, je ne sais pas. Ou peut-être moins cher. Car Zelensky s'était habillé. Il avait délibérément choisi son armure. Son statement ferait parler, il le savait. Il avait troqué son emblématique treillis kaki pour un pull sombre et sobre qui semblait absorber les dorures du bureau ovale. Face à lui, le président Trump, royal dans son costume ample et son iconique cravate rouge, et J.D. Vance, en costume à la coupe moderne, à la cravate moins large, le look de l'aspirant prometteur. Cet après-midi-là, ça a gueulé dans le bureau présidentiel. Le ton était inédit, le poids des mots inouï, et les vêtements des acteurs annonçaient déjà la catastrophe. Le vêtement n'est jamais innocent. Il lance des messages codés. En politique, il met la table, fait une partie de la job avant même que les protagonistes aient émis un mot. Le vêtement peut parler d'intimidation, de séduction, de soumission, d'adhésion, de révolution ou de volonté de vengeance. Pour cette rencontre du 28 février 2025, ils avaient été choisis avec soin, portés avec intention et faisaient partie de la mise en scène du fiasco. Revenons sur les habits des trois personnages principaux. Le treillis et le pull sont la signature de Zelensky. Il parle d'un pays envahi, d'un président proche du terrain et de ses soldats. Zelensky ne se positionne pas comme un bureaucrate, mais en chef des armées qui partagent les épreuves du peuple. En se présentant aux tribunes internationales en habit de combat, il ancre la guerre dans le réel. Sa tenue est un marqueur politique. Donald Trump impose une image forte et brutale avec sa tenue. Son complet iconique est large, encore plus que l'homme. Quoique certainement coûteux et luxueux, c'est surtout un uniforme volontairement dépouillé. Une enveloppe de laquelle sa tête émerge saisissante. Ça respire l'autorité. Rien de souple ni de stylé ici. Que force et puissance. La cravate rouge, trop large signe la silhouette. Ostentatoire, elle ne cherche pas à faire moderne. Elle est un pamphlet politique. Destructrice d'allure, la casquette MAGA, qu'il a portée avant de s'envoler pour Mar-a-Lago ce jour-là, est chez Trump l'ultime signe de ralliement. C'est sa couronne, la preuve qu'il est le king. Sur un sofa, à côté des deux présidents, était assis le requin en chef, l'aspirant J.D. Vance, qui attaquait avant son maître. Le vice-président était tonique dans son costume souple, moderne, sa cravate à la mode. Il est discret dans son allure, mais se positionne comme l'héritier du Trumpisme. Ses habits sont plus normaux que ceux de son chef, et c'est ce qui rend surprenantes ses attaques. On ne voit pas venir son aplomb, sa méchanceté. Elon Musk n'était pas présent ce jour-là dans le bureau ovale, mais parlons un peu de lui puisqu'il est un des hommes du président, ou l'inverse. Comme tous les bros des nouvelles technologies, il a longtemps porté, et le fait encore volontiers, le T-shirt, le jeans et le hoodie. Mais depuis qu'il est l'âme damnée de Trump, on le voit régulièrement dans d'incroyables costumes sur mesure de Henry Poole, tailleur de Savile Row à Londres, qui confectionne aussi les habits de Daniel Craig et de l'aristocratie britannique. Mais être Musk, c'est aussi afficher sa créativité. Il n'a pas d'uniforme ni de cravate. On peut le voir en veste de cuir, en T-shirt à message « Occupy Mars ». Ses looks confortables et relax jusqu'à la Maison-Blanche clament son indépendance et sa puissance, son pouvoir. Il est aussi remarquable de constater que les oligarques, les Bezos, Zuckerberg et autres ados éternels s'habillent désormais chic pour aller parader à Mar-a-Lago. Ils savent qui est le maître. Les vêtements en disent long sur nous. Le pyjama dorénavant porté au grand jour témoigne de l'habitude de mollesse héritée de la pandémie. Le normcore, façon Jerry Seinfeld, parle de notre envie de nous fondre dans la masse. Les bustiers et les escarpins pointus qui reviennent sont de provocantes armures qui titillent, mais gardent à distance. Les politiciens maîtrisent ce langage mieux que d'autres. En ce monde de désinformation, où le faux devient vrai, où l'IA brouille les images, il est intéressant de constater à quel point les vêtements révèlent la vraie nature de leur propriétaire. Ils servent à sublimer et ne mentent jamais complètement. C'était « Habille-toi donc », un texte de Marie-France Bazot, paru le 11 mars 2025 dans « La Presse ».
Dans une accorderie près de chez vous, un texte de Émilie Côté, paru le 23 février 2025 dans La Presse. Des cours de musique, de la couture, du dépannage informatique, du transport à l'hôpital, même de la production de kombucha et de la massothérapie. C'est sans fin, tout ce qui est offert, lance Saédé Enayati, directrice générale de l'accorderie de Longueuil. Les accorderies forment, un peu partout en province, un réseau d'entraide organisé à travers lequel on échange gratuitement des services de toutes sortes, que ce soit des travaux manuels, du jardinage ou du déneigement. La première accorderie est née à Québec en 2002. On en compte aujourd'hui une dizaine au Québec, dans Montréal-Nord, à Shawinigan ou dans la Matapédia. C'est sans compter la trentaine qui a vu le jour en France, ce qui permet des échanges d'hébergement entre Français et Québécois. Mercredi 19 février 2025, nous avons assisté à une soirée réunissant quelques-uns des 450 membres de l'accorderie de Longueuil. Autour des différentes tables, il y avait Jocelyne Tardif, qui propose des services de garde de chiens, de rédaction et une place de stationnement près de l'hôpital Charles-Lemoyne. Gilles Labrie nous a dit avoir réparé une sécheuse et a posé du calfeutrage mais avoir dit non à du lavage de fenêtres. Il cherche, par ailleurs, quelqu'un pour l'aider à créer un compte professionnel sur Instagram. Au fond, j'aime rencontrer du monde, résume-t-il. Quant à Sonia Belzile, la corderie lui a permis de se créer un réseau après une maladie qui l'a diminué. J'ai repris confiance en moi, confie celle qui prend part à des événements pour faire connaître les accorderies. On veut attirer des jeunes, souligne-t-elle. Se sentir utile. On sent qu'on fait une différence dans la vie des gens, fait valoir Louise Lamère, horticultrice de métier. Échanger des services sans argent impliqué, c'est un principe extraordinaire. C'est de l'économie sociale, renchérit Louise Choquette. Une autre accordeur, Mariette Parent, a même pris part en tant qu'agente de liaison à des recherches menées par Paul Morin, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Le sociologue a voulu documenter comment les accorderies contribuent au maintien à domicile et à l'autonomie de certains aînés. « J'ai suivi 16 personnes », raconte Madame Parent. « Certaines pensaient qu'elles n'avaient rien à offrir, mais j'ai débusqué leurs talents et elles sont devenues parmi les accordeurs les plus actifs. En général, beaucoup de personnes âgées reçoivent des services, mais on sous-estime à quel point elles apprécient être utiles. Une dame a eu des étoiles dans les yeux à l'idée de préparer, pour un autre accordeur, un bon pâté chinois, raconte Madame Parent. L'accorderie, c'est une communauté de gens avec des valeurs d'entraide et de solidarité sociale, nous dit Mariette Parent. Acceptez l'aide. Chaque accordeur a une banque de temps. Le principe est simple. Une heure de temps rendue vaut une heure reçue. Et les nouveaux ont droit à du mentorat. Plus de 1200 services ont été répertoriés et vous aurez compris qu'ils sont de tout ordre. Du prêt de chalet à l'initiation au téléphone intelligent, en passant par les cours d'anglais, la cueillette de bleuets et la décoration intérieure. Nous avons par ailleurs été complètement sous le charme de Mireille Sarah Bournet, qui offre qu'on l'accompagne au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à Pointe-à-Calière. J'ai des abonnements qui me permettent d'avoir un invité. La différence avec le bénévolat? Le principe de l'échange et de la rétribution, idéal pour ceux qui n'osent pas demander de l'aide. Mon défi est d'apprendre à recevoir. Demander, c'est un autre bel apprentissage que celui de donner, dit Marilène Provost, qui gère la page Facebook de l'accorderie de Longueuil. Les membres peuvent accumuler des heures en faisant partie des différents comités ou en faisant des tâches administratives. L'accorderie de Longueuil a aussi mis sur pied un système de location solidaire d'outils. Pourquoi acheter un emballeur sous vide quand on peut l'emprunter? Quelqu'un prête tout son équipement de camping, donne en exemple Mariette Parent. Créer des liens. Pour Saïdé et Nayati, la monnaie d'échange de l'accorderie incarne la justice sociale, contribue à briser l'isolement et à lutter contre la pauvreté. Arrivée de France il y a 15 ans, elle-même peut témoigner à quel point une accorderie permet aux nouveaux arrivants de se sentir à la maison. Au départ, la titulaire d'un doctorat en finance internationale a offert son aide pour faire des déclarations de revenus. Quant à son mari, Reza, ingénieur mécanique, il a permis à beaucoup de gens, dont le témoin lumineux du check engine venait de s'allumer dans leur voiture, d'économiser en frais de garage. Ce que le couple a tant aimé recevoir en échange, du gardiennage pour ses deux enfants et se faire des amis. « Nous sommes comme une famille », conclut Madame Enayati. Une série balado sur les accorderies. On trouve aujourd'hui au Québec une dizaine d'accorderies, dont trois à Montréal. Depuis les débuts du réseau en 2002, on comptabilise 85 000 échanges et 200 000 heures de 1 200 services différents échangés entre 10 000 accordeurs. Avis aux intéressés. Le documentariste et cofondateur de la Corderie de Sherbrooke, Jean-François Vachon, a produit une série balado de 5 épisodes qui a pour titre « S'accorder ». C'était « Dans une accorderie près de chez vous », un texte de Émilie Côté, paru le 23 février 2025 dans la presse.
La petite histoire de la montre suisse. Un texte commandité paru le 12 mars 2025 dans La Presse. Comment expliquer l'aura mythique dont jouissent les montres suisses? C'est peut-être parce que leur valeur repose sur le titane, l'or 18 carats et les pierres précieuses plutôt que la dernière technologie à la mode. Ou que leur durée de vie se compte en générations au lieu de dépendre de la disponibilité d'une pile de remplacement. Toujours est-il qu'elles représentent l'aboutissement d'une quête de perfection qui se poursuit depuis plus de 500 ans. Voici leur histoire. 1517, quand sonne l'heure de la Réforme. En placardant sa liste de 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, le prêtre Martin Luther donne le coup d'envoi à la réforme protestante. Les révolutions et les guerres religieuses en résultant forcent de nombreux artisans de France et d'Allemagne, y compris des horlogers, à se réfugier en Suisse, un territoire neutre lors de ces conflits. La plupart s'établissent à Genève, important tout leur savoir et leur technique. 1541. Luxes interdits. Le pasteur Jean Calvin encourage l'humilité et l'austérité, surtout lorsqu'il est question d'apparence. À une époque où Genève est célèbre pour ses bijoux et son travail de l'or, la doctrine calviniste interdit à la population de porter tout objet d'apparat, sans autre utilité. Les horloges et les montres en sont exemptés. Les orfèvres, bijoutiers et émailleurs offrent alors leurs services à ceux et celles qui en fabriquent. Cette collaboration favorise la création de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie, mariant précision et luxe. 17e siècle, divisé pour régner. Des artisans délaissent progressivement Genève pour s'établir dans les montagnes du Jura. L'un d'eux est Daniel Jean Richard, grand promoteur d'une méthode de travail révolutionnaire, l'établissage. Suivant une forme de décentralisation avant-gardiste, les différentes pièces d'une montre sont d'abord fabriquées dans des ateliers indépendants d'un peu partout, puis assemblées par un manufacturier garant du résultat final. La Suisse surclasse le reste de l'Europe grâce à sa production à grande échelle. Vers la fin du 18e siècle, elle exporte déjà plus de 60 000 montres par année. 18 et 19e siècle, un torrent d'innovation. Le génie suisse est à l'origine de nombreuses révolutions en horlogerie pendant cette période faste, y compris la montre perpétuelle, le chronographe, le mécanisme de remise à zéro, le calendrier perpétuel et la couronne de remontoir. À une époque où la France cherche à préserver l'artisanat, la Suisse accueille l'industrialisation à bras ouverts et accroît sa production déjà phénoménale. Personne ne peut rivaliser avec la vitesse et les volumes d'exportation des horlogers suisses. De 1967 à 1969, crise du quartz. Un consortium de recherche suisse, basé à Neuchâtel, développe le Beta-21, une technologie préliminaire de montre à quartz. Or, une entreprise japonaise parvient à commercialiser sa propre version dès 1969 et inonde le marché de produits à bas prix. Cette crise plonge l'industrie suisse en détresse. Les faillites se multiplient et plus des deux tiers des horlogers locaux ferment boutique. 1983 aux années 1990. La renaissance de l'horlogerie suisse. Le vent tourne lorsqu'un manufacturier suisse dévoile un premier modèle de montre innovante et accessible au grand public. Ce succès planétaire ravive l'intérêt envers l'horlogerie suisse, qui se repositionne désormais comme créatrice de biens de luxe. Les marques de renom redoublent d'efforts afin d'élever leur art et de perfectionner leurs œuvres. L'industrie reprend son titre de reine incontesté de la qualité. 21e siècle. Pèlerinage sur la route de l'horlogerie. Développée au début du siècle et s'étendant sur quelques 200 kilomètres de Genève à Bâle, cette route touristique sillonne la Watch Valley, plaque tournante de l'horlogerie suisse. Ces 38 arrêts font découvrir le savoir-faire centenaire d'autant de manufacturiers, de musées et de villes désignées patrimoine mondial de l'UNESCO comme La Chaux de Fonds et le Locle. De quoi comprendre et apprécier pleinement tout le travail investi dans chaque montre qui sort de la région. C'était La petite histoire de la montre suisse, un texte commandité paru le 12 mars 2025 dans La Presse.